C'était la langue de chez nous.
Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu cette chanson, grand succès, et qui fait partie du spectacle « Détourner sa langue », un spectacle qui a été écrit, conçu et mis en scène par Claire-Vie Tiens-Pont, qui est aussi une comédienne et qui est en studio. Bonjour Claire-Vie.
Bonjour.
Moi, je ne vous connaissais pas avant d'entendre parler de ce spectacle-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre trajectoire? Vous avez un père breton, une mère québécoise ou le contraire?
Non, en fait, ma mère est belge, mon père est québécois, mais ils ont trippé sur la Bretagne. Fait que mon frère et moi, on a des prénoms bretons. Moi, je dis que c'est ma racine poétique.
Ah oui? Oui. Et vous en parlez dans votre spectacle?
Oui, oui, je me situe là comme conférencière, mais aussi comme individu, parce que toutes les facettes de ma personnalité, de mon parcours sont mises en scène dans ce spectacle-là. Donc, que je suis mère, comédienne, que j'ai fait une maîtrise, tout ça fait partie aussi du spectacle.
D'ailleurs, c'est la thèse de maîtrise qu'on voit sur une scène?
Oui, en quelque sorte, c'était mon projet de... J'appelais ça une conférence performative. C'est devenu un spectacle par la suite, mais oui, c'était comme en mode lecture. Ouais. Après ça, on a nettoyé, on a mis plus de théâtralité, mais ça faisait partie effectivement d'une partie de mon travail de maîtrise.
Oui, j'ai dit
à l'université.
une thèse de doctorat et un mémoire de maîtrise. Ouais, on est dans la création ici.
Oui, c'est un mémoire création. Donc ça, c'est la partie création, mais j'ai aussi dû faire un mémoire écrit... suite à cette
donc
à
beaucoup
ce,
de travail
spectacle.
Avant d'arriver sur la scène.
Oui.
Vous avez présenté le spectacle le 9 avril à la Maison de la culture de Rosemont, La Petite Patrie, et puis on donnera toutes les dates et les lieux. Vous faites la tournée de plusieurs maisons de la culture pendant le printemps.
On fait partie du CAM en tournée, en fait. Le spectacle a été choisi par le Conseil des arts de Montréal, puis c'est pour ça qu'on fait partie du CAM en tournée.
C'est super. Ouais. Les maisons de la culture, c'est très agréable.
Ah, c'est génial.
Oui. Puis c'est accessible aussi pour le public.
Oui.
On a des laissez-passer gratuits ou sinon il faut défrayer
très peu
d'argent.
Oui.
Alors, présentez-nous votre projet. Comment est-il né d'abord? Vous l'avez dit à travers un travail universitaire.
Oui.
De quoi ça parle, même si on s'en doute un petit peu?
Oui. En fait, il y a quelques bougies d'allumage. Oui, c'est un retour à l'école, à l'université, pour prendre un pas de recul, réfléchir à mon métier, tout ça. Mais j'avais envie d'interroger la langue au théâtre, en fait, aussi plus précisément le français normatif sur les scènes du Québec. Donc, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de parler avec cette espèce d'accent-là qui ne nous ressemble pas, qui est plutôt copié sur un français normatif qui ressemble davantage peut-être à l'accent français par moment. Puis moi, c'était quelque chose que, quand j'allais au théâtre, des fois, ça me dérangeait quand j'entendais des acteurs sonner un peu trop franchouillard. Comme si l'espèce de neutralité, des fois, je trouve, débordait vers le franchouillard.
Ah oui.
Fait que ça, c'est un peu comme moi, ces questions-là que j'avais envie d'interroger. Mais plus largement, en faisant des lectures, notamment en sociolinguistique, Anne-Marie Baudouin-Bégin, entre autres, qui a écrit « La langue rapaillée », qui est une sociolinguiste québécoise, c'est magnifique parce que...
Un clin d'œil au poète Miron,
oui,
Gaston Miron.
Oui, Gaston Miron, tout à fait. Puis dans son recueil, en fait, dans son ouvrage, c'est comme si elle vulgarise des concepts de sociolinguistique. Elle parle entre autres de l'insécurité linguistique. Puis moi, cette découverte-là, ça m'a vraiment frappée, tu sais, par rapport... C'est comme si quand une norme n'est pas la nôtre, c'est comme si à chaque fois on se sent un peu inférieur à ça parce qu'on n'arrive pas forcément, on trouve que la norme est plus prestigieuse que notre façon de parler, puis ça crée de l'insécurité linguistique.
Ah, c'est ça, je me demandais c'était quoi ce concept-là, vous venez bien de l'expliquer.
Voilà, mais ça a été très marquant pour moi parce que je me suis dit, OK, mais là, cette notion-là, si on veut s'en affranchir, s'en libérer, s'assumer comme... dans ce qu'on est, il faut avant tout en prendre conscience aussi. Fait que c'est là que mon travail, qui d'abord interrogeait la langue au théâtre, s'est mis plus largement à questionner notre identité, notre rapport à la langue, puis dans notre intimité aussi. Puis parce qu'au final, il y a des normes, il y en a plein au Québec, dans le sens il y a plein d'accents différents dans les régions différentes, mais aussi à l'intérieur d'une même famille, tu sais, chaque microcosme peut avoir sa propre norme, sa façon d'être, de parler, etc. Puis moi, je me suis lancée comme défi de vulgariser ces concepts-là de sociolinguistique ou ces découvertes-là ou ces réflexions-là sur la langue que je me faisais, mais à travers aussi mon parcours de femme, de mère qui transmet la langue à ses enfants, de comédienne qui est confrontée parfois à aller faire du doublage, hein, ça aussi, le doublage, encore une autre espèce de variation linguistique un peu étrange, mais qui fait partie des habitudes d'écoute du Québec. Mais si on changeait ces habitudes d'écoute-là, peut-être qu'on pourrait aussi se rapprocher de nous dans ce qu'on entend en doublage, par exemple. Puis là, je me suis aussi, tu sais, donc, fait, toutes ces facettes-là, puis le fait que moi-même, ma mère est belge, donc on avait des expressions qui étaient différentes. Je me fais dire des fois que j'ai un accent. Est-ce que je suis moins québécoise parce que j'ai un accent? Quelle est la perception des autres? C'est toutes ces réflexions-là qui sont mises en scène dans le spectacle de façon avec beaucoup d'autodérision, avec humour, avec
un rigueur karaoké.
Aussi. Oui, il y a un karaoké sur Yves Duteil. C'est ce que je disais à ma technicien que je la massacrais un peu pendant le spectacle.
Ah oui.
Mais voilà, donc c'est comment je traverse avec le public toutes ces notions-là en donnant des aspects théoriques un peu parce que je les convie à une conférence universitaire un peu, hein, comme maître SA.
Ouais.
Oui, donc ça s'annonce comme ça, mais rapidement cette forme-là, elle est détournée un peu comme dans le titre pour faire place à plus de théâtralité, à des clins d'œil, avec beaucoup de plaisir. Donc c'est comme si les clés qu'on a besoin pour comprendre, certaines notions sont données, puis après ça, pouf, on peut comprendre là où je vais, les liens, le public peut faire ses propres liens, puis c'est beaucoup de questions en même temps que je soulève, pas juste des réponses. C'est ce que j'ai envie, c'est que le spectacle, il reparte avec le public, puis que ça continue de mûrir en eux, puis qu'ils continuent de réfléchir, puis de
parce
voir.
Que la langue est un sujet extrêmement sensible.
Oh mon Dieu, et complexe.
Tellement personnel.
Oui,
oui, complexe
tout à fait.
Aussi. Et d'après vous, Claire-Vie Tiens-Pont, avec les recherches que vous avez faites, qu'est-ce qui fait l'unicité de la langue québécoise?
Ben moi, ce que j'aime de la langue québécoise, c'est vraiment, c'est dans son ensemble, je trouve, c'est son histoire, ses combats, sa couleur, c'est la création aussi qu'on met dans la langue, c'est la fierté aussi, des fois, de trouver le mot en français pour dire quelque chose, tu sais, toutes les courriels, tout égo-portrait, puis tu sais, on...
Courriel au lieu de dire mail.
Mail, tu sais, je trouve que...
Égo-portrait au lieu de dire selfie.
On a quand même ce souci-là au Québec, d'essayer de trouver des mots français pour nommer le monde.
Vous trouvez que le souci est bien là?
Ben oui, moi je trouve quand même. Puis après ça, faut une langue, c'est vivant, puis ça évolue avec ses usagers. Puis il faut toujours garder en tête que chaque langue possède plusieurs registres.
Mm-hmm.
Au Québec, on a un français soutenu avec notre accent, puis on a un registre familier. Le québécois, c'est pas juste un registre familier, c'est tous les registres, comme dans toutes les langues. Donc, parfois, je trouve qu'il y a des amalgames qui sont faits. Ah, tu sais, on parle mal. OK, on parle pas mal quand on parle avec notre ami, avec nos expressions, puis oui, on peut mettre des mots d'anglais, puis on peut mettre ce qui est à la mode au bout du jour, mais ça, c'est des registres de langue.
Oui.
C'est pas... T'sais, l'idée, c'est de maîtriser tous les registres puis faire appel au bon registre selon la situation dans laquelle on se trouve. Mais quand on parle avec nos amis ou avec notre famille, on
comment
peut
vous parlez-vous avec vos amis, Claire-Vie?
Ah ben, je parle comme tout le
Parce
monde.
Moi,
là.
J'ai appris.
Oui.
On m'avait dit, si tu veux faire de la radio, c'est sûr que je m'efforce à bien parler le français parce que c'est une responsabilité quand même d'avoir un micro devant soi, mais de le faire dans ma vie en général, comme ça, on se perd jamais, on s'échappe. Pas.
Mm-hmm.
Je sais pas, ce n'est plus la bonne manière de faire. Vous dites qu'il y a deux manières de s'adresser au monde.
Ah non, moi je dis que c'est vrai que, comme vous dites, peut-être vous, ça fait tellement partie de votre vie de s'exprimer comme ça que dans tous les contextes, finalement, ça devient votre langue du quotidien. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous voulez dire?
Oui,
c'est ça. Puis des fois, il y a des acteurs aussi qui ont tellement parlé en français normatif, là, tu sais, des acteurs plus âgés souvent, ben, que c'est devenu leur langue quotidienne. Mais je pense que je ne parle pas nécessairement... si je fais une conférence universitaire, ben, je vais m'exprimer d'une certaine façon. Puis quand je parle avec mes amis, peut-être je vais utiliser d'autres expressions.
Il y a peut-être un petit lâcher-prise.
Il y a un lâcher-prise, un relâchement.
Ben, aussi,
on
là,
le sent qu'on est stressé.
Là,
en fait, il y a une métaphore dans la langue rapaillée, dans Marie-Baudouin-Bégin, qui parle un peu de... On ne s'habille pas de la même façon quand, selon certaines situations. T'sais, des fois, on est en robe de chambre, on parle au téléphone.
C'est vrai.
D'autres fois, ben là, on envie comme de se mettre un vêtement un peu plus rigide, ben la langue, c'est un peu la même chose, tu sais, ça a cette souplesse-là.
L'image, ouais.
Puis après ça, on peut aussi décider de faire des choix politiques puis de dire, hey, moi, la langue de la rue, j'ai envie de la mettre dans la littérature, j'ai envie de la mettre dans mon quotidien, tu sais. Pierre Falardeau, c'était... lui, je pense que c'est la langue de tout, sa langue de tous les jours, c'est celle qui l'utilisait tout le temps.
Tout à fait. C'est correct aussi. Bien fleuri, là.
Complètement.
Il se gênait pas
puis,
pour jurer.
Puis ça veut pas dire qu'il est moins intelligent. Je pense que c'était un choix
absolument
politique
pas
de faire ça.
Ah oui.
Donc,
est-ce que votre spectacle est politique?
Ben moi, là, je vais pas voler de punch, mais pour moi, la langue au Québec, c'est politique. Mm-hmm.
Puis, on peut pas s'en sortir.
On peut pas s'en sortir. Voilà.
Ouais.
Donc, c'est, mais il faut juste être conscient que de ça, puis de choisir ce qu'on fait avec ces choix politiques-là. Puis par rapport au théâtre, notamment, moi, je pense qu'il faut réfléchir à la langue théâtrale qu'on met sur les scènes. T'sais. Est-ce que... Puis de se dire, on a le droit encore de parler en français normatif, si on veut, mais...
Oui, bien, quand on va voir un Molière avec un accent québécois, ça, bon, ça serait une proposition
ben,
qui pourrait être intéressant.
Il y en a eu, Théâtre Denis Pelletier, Claude Poisson a monté un Molière. Et là, je ne veux pas dire n'importe quel, là, mon cerveau,
bon,
il est en ébullition.
Il a monté un Molière
mais,
en
québécois.
Québécois.
Puis tu sais, je pense que les acteurs... Oui, je l'avais vu. Puis il y a des acteurs qui étaient extraordinaires là-dedans, puis qui s'en sortaient très bien. Je pense que c'est une gymnastique qui est pas toujours facile. Parce qu'on a des réflexes comme comédien aussi. Puis, fait qu'il y a des choses, des fois, à désapprendre.
On a une insécurité linguistique, comme
aussi,
vous disiez tantôt, donc on s'accroche.
On s'accroche à des vieilles façons de faire. Puis c'est tout ça qu'il faut. Il faut se rendre souple dans tout ça. Peut-être désapprendre des vieux réflexes pour essayer autre chose. Puis je pense que ça a vraiment bien marché auprès des étudiants, entre autres.
C'était pas l'Avare de Molière?
C'était-tu l'Avare? Mon Dieu, tu sais, je me rappelle
la cassette, la cassette. Mais qu'est-ce qui est dérangeant aussi quand on assiste à une pièce de théâtre française, faite par un ou une Française, et que les niveaux de langage sont changeants d'un comédien à un autre. Là. Mm-hmm. Mais ça, là, c'est le travail du metteur en scène ou de la metteuse en scène qui n'a pas été fait peut-être jusqu'au bout.
Ouais.
Là.
Mais moi, j'ai même envie d'interroger, tu sais, dans la vie, là, des accents différents, il y en a plein.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, est-ce qu'on pourrait aussi, comme habitude d'écoute, accepter cette diversité-là? Tu sais, on parle beaucoup de diversité à l'écran.
Ça dépend du personnage qu'on incarne.
Oui, oui, ça dépend. Mais après ça peut aussi être des choix, je pense. En fait, puis
le
j'entends...
Le free-for-all,
non,
faut bien
pas
parler
le free-for-all, mais c'est de dire, c'est des conventions au théâtre, il y a des conventions.
Ouais, ouais.
Puis... T'sais, peut-être qu'il pourrait avoir la convention que dans une même famille, tout le monde n'a pas la même couleur de peau. T'sais, à un moment donné, on s'est interrogé sur la diversité, mm-hmm. Sur les scènes en fonction, entre autres, de la couleur de peau, par exemple, des origines différentes, mais on n'a pas nécessairement interrogé à fond la diversité auditive par rapport à la diversité linguistique sur les scènes, je trouve. Puis, je pense que ça peut être aussi un exercice intéressant d'accepter que ça fait partie aussi du paysage sonore. Tu sais.
Et donc, sur la scène, vous avez parlé de la forme, mm-hmm. mais je me demandais qu'est-ce que le linguistique Guy Bertrand, les chanteuses Céline Dion, Rose Laurence font dans votre spectacle?
Guy Bertrand, il est comme un personnage, si on veut, dans ma pièce.
Qu'on entend à la radio de Radio-Canada.
Oui, qui est le premier linguiste de la Société d'État. Donc, on l'entend entre autres avec les fameuses capsules linguistiques là, qu'on entend tous les jours.
Oui,
oui. Donc, dans la pièce, il est comme devenu un personnage où on l'entend.
On l'entend avec sa vraie voix, là?
Sa vraie voix. C'est des vraies capsules linguistiques.
Il a embarqué dans votre projet. Il a dit oui à votre projet.
Je veux pas voler tous les punchs, mais il fait partie sonorement de la pièce. Céline Dion, moi, je m'en sers pour une scène justement par rapport à l'insécurité linguistique, puis le fait que un des effets de l'insécurité linguistique, c'est l'hypervigilance, donc l'hypercorrection, quand on est toujours en train de se surveiller, tu sais.
Qu'on se regarde.
On se regarde, puis là, on se corrige.
On juge.
Mon Dieu, est-ce qu'on parle bien?
Ouais.
Puis ça arrive à tout le monde, là, ici, probablement au Québec, quand on voyage, entre autres, en Europe, là, puis tu sais, on veut tellement bien faire, puis tout ça, puis là, parce qu'on se sent insuffisant.
Quelquefois, on devient caméléon. On est interviewé par quelqu'un qui parle français, on veut bien se faire entendre,
tout
alors on adopte l'accent en français.
Tout à fait.
Puis ensuite, on se fait juger, mais c'était pas pour mal faire. Ça devient
compliqué.
Oui,
mais ça, on l'a tous vécu tôt ou tard.
Oui.
Puis le spectacle nous permet peut-être de s'interroger. Est-ce qu'on doit faire ça ou est-ce qu'on, finalement, on peut assumer? Puis à un moment donné, là, nous, quand on regarde des films français, nous aussi, on s'adapte. On les connaît pas, toutes leurs expressions, puis on n'en fait pas un cas. Peut-être qu'eux aussi, là, ils peuvent commencer à accepter, puis arrêter de nous dire « Ah, vous, tu sais, vous avez l'accent canadien. » Ils disent « Je chante ça en plus, je comprends pas pourquoi. » Puis c'est comme si on a les cousins, tu sais, notre accent, il vaut bien le leur, comme celui des Suisses ou des Belges ou, tu sais, des autres pays de la francophonie.
Hier, Clairvy, il y avait... Non, c'était le 9 avril, là, vous avez présenté votre spectacle à la Maison de la culture de Rosemont-la-Petite-Patrie.
Oui.
Et vous me disiez qu'il y avait eu une conversation après le spectacle. Est-ce qu'il y avait des Français dans la salle?
Il y avait des Belges. Il y avait sans doute aussi... Ben oui, parce que mon assistant est français. Il y avait sûrement des Français aussi. Il y avait quelqu'un qui venait de la Nouvelle-Zélande.
Et qu'est-ce que les gens vous disaient sur ce qu'ils avaient entendu et vu?
Ben, il y en a qui partageaient, selon leurs horizons, entre autres. Il y avait quelqu'un aussi qui était là en enseignement par rapport à... Bon, mais qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants qui soulevaient la question, tu sais, la norme? Parce qu'il n'y a pas de norme québécoise du français oral au Québec. Mais à l'écrit, bon, on a l'Office de la langue française. Mais, donc, il y avait un échange, tu sais, par rapport à ça, par rapport à l'insécurité linguistique. Puis oui, effectivement, le fait qu'en France, tu sais, selon les différentes régions, il n'y a pas une unité de la langue non plus. En France, il y a plein d'accents. Puis il y a un phénomène, entre autres, qui a été nommé par un linguiste, Philippe, Blanchet, qui s'appelle glottophobie, qui parle de la discrimination par l'accent. Donc, tu sais, on n'est pas les seuls, tu sais, à
est-ce que vous en parlez de discrimination par
rapport à l'accent? Pas dans le spectacle Détourner sa langue, mais dans mon mémoire, oui, j'y fais référence à ça.
Oui.
Mon mémoire écrit traverse d'autres notions qu'on n'a pas le temps de visiter dans le spectacle, mais c'est toutes des questions que je trouve fascinantes puis super intéressantes. Ouais.
Alors, il reste une minute, ça va très, très vite. J'ai le temps quand même de dire, et c'est important, que si les gens veulent aller découvrir ce spectacle-là, vous voir sur la scène, Détourner sa langue et présenter, donc, ce soir, 11 avril, au Centre communautaire d'Anjou, le vendredi 12 et demain, à l'entrepôt Maison de la culture Lachine, samedi, à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal, dimanche, cette fois-ci en après-midi, à la Maison de la culture Marie-Huguet, et mardi prochain, à la Maison de la culture Côte des Neiges, que j'ai beaucoup fréquenté, dis-je bien, à 19h30. Et puis ensuite, vous allez partir en tournée à travers le Québec.
Oui,
c'est bien
l'année
ça.
Prochaine. Le spectacle est produit par les productions Hôtel Motel. Donc, c'est une compagnie qui est bien établie. Puis j'ai la chance d'être sous leur protection pour la suite de tout ça.
Alors, vraiment un beau projet. Vous qualifiez le spectacle de théâtre hybride, hein, c'est ça?
Ah oui, on peut dire ça, je pense.
On peut tout dire.
Et autre folie. Oui.
Merci beaucoup, Clairvy Tiens-Pont. Et à une prochaine, j'espère.
Au plaisir, merci.